I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand.
Salut Cinociné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente ici à vous sous forme d'Extra Ball, notre digression bien connue, celle qui nous permet d'évoquer rapidement une sortie du moment, comme on va le faire là tout de suite en parlant de Holmes & Watson, directement passé par la case VOD sans faire une halte en salle chez nous. Et on va en causer avec mon camarade Stéphane Moïsaki. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
Cinociné Extra Ball spécial Holmes & Watson et c'est parti.
Un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.
Comme son nom l'indique, il s'agit donc d'une relecture des aventures de Sherlock Holmes et de son fidèle allié, le Dr Watson, adaptation comique, a priori alléchante, puisque outre Ethan Coen qui réalise et qui a quand même par le passé co-signé des films aussi merveilleux qu'Idiocratie ou Tonnerre sous les Tropiques, on trouve au casting un duo fabuleux, Will Ferrell et John C. Reilly, deux duos qui a de nombreuses fois émerveillé nos petits yeux, notamment dans l'indépassable Step Brothers, c'est Adam McKay, faut-il encore le préciser.
Chef d'œuvre.
Bref, tout pour plaire, sauf que ça n'a pas plu, en tout cas pas aux USA, puisque le film a été un bide, il s'est fait torpiller par la critique, sorti en France annulé et comble du malaise une victoire aux Razzie Awards dont on pense pas grand bien ici, mais qui marque un désamour certain pour le film. En vrai, qu'est-ce que ça vaut tout ça, mon bon Stéphane ?
Le film, il arrive précédé d'une sale répute, hein, oui. À cause de tout ça. Il y a aussi eu des articles comme quoi Netflix n'en voulait pas, en fait,
oui.
Parce qu'apparemment
Sony a essayé de le bazarder chez Netflix, et voilà. Netflix a fait non merci, ça va aller.
Voilà, moi j'en attendais quand même quelque chose à cause du duo.
Forcément,
c'était la première fois qu'ils se retrouvent depuis Step Brothers, justement. Enfin, il y a eu une apparition de John C. Reilly dans Anchorman 2, mais ça compte pas, hein. Pas déconner non plus, quoi.
Oui.
Et voilà, et en fait, c'est pas bon, c'est vrai que c'est pas bon. C'est-à-dire que mais la version qu'on a vue, déjà, elle est un peu particulière, parce que, alors, il y a deux versions du film. Déjà, c'est un film qui est remonté, ça se sent, mais ouais. Enfin, vraiment, c'est terrible. Et ça, c'est quand même très problématique pour une comédie, parce qu'il faut arriver à faire fonctionner les gags, et c'est vraiment une science du rythme qui n'est pas du tout prise en compte là-dedans. C'est vraiment un film qui est très expédié, qui expédie ses séquences très très rapidement, qui n'est pas vraiment une parodie de Sherlock Holmes. De Conan Doyle, quoi, mais une parodie du Sherlock Holmes de Guy Ritchie, quoi, qui est quand même un peu, un peu cheap, quoi.
Déjà, c'est un peu nul.
Voilà, et ce qui est déjà pour moi une parodie en soi de Sherlock Holmes, même si c'est pas volontaire. Ça veut dire ce que je pense de Guy Ritchie. Et en fait, l'autre problème du film, c'est que donc, il y a par exemple, aux États-Unis, il est sorti avec une autre ouverture que celle qu'on a en Europe. Parce qu'il faut savoir qu'en Angleterre, le film est sorti en salle. Et en fait, c'est pareil, c'est une scène qui est incompréhensible. En fait, tu peux la voir, elle est sur YouTube, elle est sur Movie Clips, ce genre de truc. Ils te mettent la scène d'ouverture. Hein. En gros, en fait, par exemple, la scène d'ouverture qui est en aux États-Unis, c'est les deux personnages qui se rencontrent sur les bancs de l'école. Donc, c'est pas les deux acteurs qui jouent leur rôle, c'est des gamins. La scène, c'est une scène comique, mais elle fonctionne pas parce que c'est deux gamins qui jouent pas très bien. En Europe, c'est une scène en fait où Watson essaye de se suicider en fait et tombe sur la courge géante de voilà, tu vois, ça te fait rire déjà, c'est quand même un peu plus drôle, tu vois. Et tombe sur la courge géante de Will Ferrell, quoi.
Souvent c'est plus drôle quand c'est toi qui raconte que je vois vraiment
ça
les
dépend,
films.
Et voilà, et même là en fait, si tu veux, c'est des scènes, tu sais pas trop pourquoi, ouais. C'est très très bizarre la façon dont ils écrivent, parce que alors il y a tout un jeu, alors il y a tout un jeu d'anachronisme en fait qui fonctionne pas non plus, c'est-à-dire qu'il y a un jeu sur les selfies, mais tu te demandes pourquoi en fait ils jouent sur ces jeux-là en fait, avec, sauf qu'ils prennent un appareil, évidemment un appareil de photographie d'époque, quoi. Il y a tout un tas de trucs en fait où ils essayent, donc comme je te disais, c'est une parodie du film de Guy Ritchie, ouais. donc en gros, ils parodient l'espèce d'intuition que peut avoir le personnage en fait quand il prédéfinit en fait ce qui va se passer, mais c'est pareil, enfin c'est ça pousse pas très loin. Et alors l'autre jeu avec lequel le film essaye de tirer des points de vue comiques, mais ça, pareil, ça tombe complètement à plat, c'est avec les personnages historiques. Donc t'as des personnages historiques qui apparaissent au fur et à mesure dans le film. T'as, alors je crois, Mark Twain, t'as des trucs comme ça. Et en fait, ils en font des blagues autour de ça. C'est des contemporains de l'époque. Et ça tombe complètement à plat jusqu'à un moment donné où carrément en fait il y a pour moi en fait c'est un détail hein, c'est vraiment une apparition comme ça vraiment très très fugace de Elephant Man et je me suis dit c'est formidable il y a 30 millions de gags à faire avec Elephant Man même si j'adore Elephant Man le film de
Lynch
et puis voilà tu ne peux pas ne pas avoir de l'empathie pour le personnage depuis que tu connais cette histoire je pense que tu avais des millions de gags à faire autour du personnage hyper outrancier et ils en font pas il apparaît là donc c'est très très c'est un film qui est très étrange parce que tu sens qu'il y a beaucoup de coups beaucoup de choses comme ça après donc c'est pas un bon film ça c'est clair mais la raison pour laquelle je voulais quand même qu'on appuie un petit peu le film qu'on en parle ça alors c'est sorti qu'en VOD ça sortira probablement pas en DVD ou en Blu-ray enfin voilà on en est vraiment arrivé là hein, parce que déjà quand ça sortait en salle à l'époque ça sortait dans 10 salles dans toute la France maintenant c'est carrément c'est VOD c'est même pas un disque physique c'est rien démerde-toi donc si vous voulez le voir je pense que c'est sur toutes ces format. Et en fait, la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que malgré effectivement le fait que c'est pas une bonne comédie, malgré le fait que c'est pas, pas vraiment drôle, le film ne suscite pas l'antipathie absolue. Oui. C'est-à-dire que j'en veux pour preuve que Ethan Coen, en fait, dont tu t'as cité, il a fait Tonnerre sous les Tropiques, il a fait Idiocratie, ça c'est deux gros.
En tant que co-scénariste,
voilà, c'est gros fait d'armes. En tant que réalisateur, il a fait un film qui s'appelle Get Hard, qui est sorti aux États-Unis en 2015. Pareil, je crois que c'est sorti en VOD chez nous, voilà, avec Will Ferrell déjà, donc une production Will Ferrell, c'est-à-dire Gary Sanchez production avec Adam McKay. C'est leur boîte de prod, qu'ils ont d'ailleurs démantelé. C'est ça qui est comment dire, aussi un peu triste aujourd'hui. C'est-à-dire que globalement, ils vont probablement plus vraiment bosser ensemble. Oui. J'imagine que Adam McKay va partir dans ses films politiques et Will Ferrell va continuer de dériver dans la comédie un peu
bas de gamme.
Ouais, bas de gamme, parce que vraiment de seconde zone, il commence vraiment à ressembler à ce qu'Adam Sandler faisait quand il a commencé à dériver dans sa carrière. Et voilà. Alors le truc avec Get Hard, c'est que c'était Will Ferrell et Kevin Hart. Mm. Et en fait, c'est un duo comique qui ne marche pas du tout. C'est-à-dire, et en fait, c'est ça la grosse distinction, c'est que il peut y avoir des moments amusants dans Get Hard, voilà. Mais c'est vraiment un film qui est raté aussi. Moi, je trouve que les moments amusants de Get Hard, c'est des moments qui jouent sur le fait que Will Ferrell essaye de se sortir, parce que c'est l'histoire d'un petit blanc là, incarné par Will Ferrell, un petit riche en fait qui doit aller en prison parce qu'il a fait des conneries et en fait du coup il apprend à se durcir auprès de Kevin Hart qui lui-même n'est pas particulièrement un gros dur mais qui pour gagner de l'argent en fait lui fait croire qu'il l'est quoi.
Ouais.
Et du coup t'as plein de moments où Will Ferrell se prend pour un rappeur et forcément bon c'est ou un gangster et tout ça et c'est forcément assez drôle quoi. Mais voilà t'as pas de scène comme ça dans Holmes et Watson t'as pas de scène qui ressort vraiment où tu te dis ah ça c'est une bonne scène c'est drôle. Mais par contre en fait la sympathie du couple c'est-à-dire du duo comique et reste intact. Et c'est ça, en fait, qui finalement, c'est-à-dire, tu peux regarder, ça dure une heure et demie, hein, mais tu peux regarder le film de façon assez, finalement, c'est un gâchis, c'est dommage, mais ça suscite pas l'antipathie comme Get Hart pouvait le susciter un petit peu, parce que t'étais vraiment, en fait, t'es allé de très très haut à très très bas, parce que pour moi, Kevin Hart, c'est une des aberrations dans la comédie ces dernières années. J'ai du mal à comprendre, en fait, ce qui fait rire. Je trouve rien de particulièrement drôle, mais bon, apparemment, il est quand même très très populaire et alors qu'en fait voilà il y a pas de complémentarité surtout c'est ça le problème avec Will Ferrell là il y en a vraiment une elle est intacte elle est pas servie par le film elle est pas servie par le scénario elle est servie par rien du tout hein, à la fin mais j'ai du mal à en considérer ça comme le pire film de l'année ne serait-ce qu'à cause de cette chose là donc voilà donc après ben il faut être honnête hein, si vous portez Frangin malgré eux et Talladega Nights au firmament des comédies de ces dernières années, bah, il faut vraiment s'attendre à un film bien dans ça, quoi. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage. Maintenant, est-ce que ça mérite, en fait, cette image de film complètement décadent de nullité? Parce que, entre autres articles, il y avait aussi des articles comme quoi les gens sortaient de la salle
avant la fin,
ce genre de choses.
Dès le début de l'exploitation du film en salle.
Voilà, c'est ça.
Ça a sans doute pas aidé à son succès.
Voilà. Mais c'est très étonnant en fait de se dire qu'aujourd'hui ça c'est surtout des articles de news en fait pour voilà il y a les gens qui sortent de la salle Bah, très bien, mais en fait, ça sert à quoi en fait de faire des articles là-dessus? C'est là où je pense qu'il y a aussi un espèce de jeu politique larvé derrière sur la façon dont les studios se tirent dans les pattes et commandent des articles à droite à gauche, quoi. Mais bon, ça c'est mon côté un peu parano qui ressort. Donc voilà, donc c'est difficile à conseiller. Je pense que vu en fait la façon dont le film a été reçu, vu ce qui est en train de se passer pour Gary Sanchez Productions, c'est-à-dire le fait qu'ils soient en train de se séparer, on peut espérer qu'il y aura un renouveau en fait pour Will Ferrell et qu'il va essayer vraiment de s'attacher à des projets beaucoup plus solides et qui ne se basent pas uniquement sur ce que lui est capable de faire, mais peut-être une façon de se transcender, quoi. Ouais. Malheureusement, je pense que la problématique du bide en soi et de la non-qualité du film, c'est qu'il y a quand même des chances que les deux, John C. Reilly et Will Ferrell, ne retournent plus vraiment ensemble avant un bon moment aussi, quoi. Donc voilà, c'est un gros gâchis. Maintenant, est-ce que c'est à ce point antipathique? Est-ce que c'est à ce point,
catastrophique?
Oui, mais en fait, par affection, tu leur passes quand même aussi pas mal de choses, quoi.
Ouais. Voilà. Holmes et Watson, c'est disponible, on l'a dit, sur tout un tas de plateformes de VOD pour les complétistes, on va dire, du duo Will Ferrell, John C. Reilly, et ils sont nombreux, je l'espère. Merci Stéphane, merci à Quentin La Technique, binge.audio pour toutes les infos utiles, on vous dit à très vite.
Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sourd.
Binge.